RFI 6h30 à Paris et Brazzaville 7h30 à Khartoum. Bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une de votre journal, ce rapport de Médecins sans frontières sur les conditions de vie dans la province de l'Itourie.
Dans l'est de la RDC, une crise éclipsée, notamment par celle qui touche les Kivus. MSF juge primordial de témoigner du degré de souffrance sur place et appelle à un regain de la mobilisation. Depuis décembre 2022, 2300 civils tués, 800 victimes de violences sexuelles et des centaines de milliers de déplacés. Retour ensuite sur cette attaque du groupe Boko Haram contre l'armée camerounaise dans le nord-est du Nigeria, au moins 11 morts. Pourquoi les rassemblements en faveur du pouvoir sont-ils maintenus et pas ceux en faveur de l'opposition? Des leaders centrafricains se posent la question, dénoncent une discrimination et maintiennent une marche prévue le 4 avril. Et puis c'est l'une des belles histoires de ce mois de mars. Au Niger, plus de 40 millions de francs CFA récoltés pour envoyer Yasmina en Turquie. Yasmina, cette étudiante orpheline qui souffre du syndrome de la personne raide, une maladie incurable. La situation sécuritaire dans l'Itourie, province de l'Est de la République démocratique du Congo, au cœur d'un rapport de l'ONG Médecins sans frontières publié ce mardi. Le titre évocateur de ce document, risquer sa vie pour survivre. MSF espère ainsi rebraquer les projecteurs sur les conditions de vie des habitants et sur la recrudescence des atrocités dans la province. RFI Kinshasa, Pauline Azidi.
Il faut témoigner du degré de souffrance en Ituri, terre de violence et de déplacement, estime MSF. Si ce rapport documente en détail les années 2023 et 2024, le contexte de violence armée aiguë dans la zone ne s'est pas apaisé en 2025. Et les chiffres actualisés le montrent bien, plus 7% de personnes déplacées uniquement pour ces trois derniers mois. Au total, plus d'1 400 000 personnes ont dû quitter leur habitation en raison de cette crise sécuritaire. Depuis décembre 2022, selon les Nations Unies, plus de 2300 civils ont été tués dans cette seule province. Plus de 800 victimes de violences sexuelles ont été recensées. Conséquence de cette situation, les conditions de vie se dégradent. Près de 43% de la population est en insécurité alimentaire chronique. Et l'organisation médicale de noter que la réponse sur le terrain n'est pas à la hauteur des besoins. Une crise éclipsée en partie par celle qui secoue les provinces voisines du Nord et du Sud Kivu avec l'action du groupe armé M23. MSF appelle donc à un regain de mobilisation des bailleurs. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et concernant la RDC encore, ce matin on fait un point sur les consultations qui se poursuivent en vue de la formation d'un gouvernement d'Union nationale. On vous parle également du nouveau mouvement lancé par Thomas Lubanga, l'ancien chef de milice condamné par la Cour pénale internationale à 14 ans de prison pour l'enrôlement d'enfants soldats, vient de créer la CRP, la Convention pour la Révolution populaire. Une attaque meurtrière contre l'armée camerounaise dans le nord-est du Nigeria. Les assaillants, des combattants de Boko Haram, dissimulés, déguisés en éleveurs et en commerçants, ce qui leur a permis de frapper par surprise et de faire au moins 11 morts. La correspondance de Polycarpe Somba à Yaoundé.
Selon des sources sécuritaires à Maroua, l'attaque est survenue dans la nuit de lundi à mardi dans la localité nigérienne de Wulgo, frontalière du département camerounais du Legonichari. Les mêmes sources déclarent que les insurgés de Boko Haram ont pris par surprise des camps de base des forces multinationales mixtes qui comptent en leur sein des soldats nigériens, tchadiens, nigériens et camerounais et qui opèrent dans la région dans le cadre des missions anti-djihadistes. Particulièrement violente, l'attaque qui a duré un peu plus de 2 heures a fait de nombreuses victimes dans les rangs des soldats camerounais, au moins 11 morts et 21 blessés. Qui ont été conduits dans les hôpitaux de Maroua. Les insurgés ont aussi emporté des armes, dont des canons anti-aériens, ainsi que des munitions. Ils ont aussi mis le feu sur ces bases militaires et des véhicules de combat, renseigne pour sa part l'AFP. Cette attaque sur Wulgo en territoire nigérien est l'une des plus meurtrières pour les forces camerounaises, engagées depuis plus de 10 ans contre les islamistes de Boko Haram, venus du Nigeria dont les exactions débordent assez régulièrement côté Cameroun, dans les localités qui bordent la frontière. Polycarpe Somba, Yaoundé, RFI.
RFI 6h34 à Libreville, notre invité ce matin, Brice Clotaire Oligingema, le chef de la transition gabonaise et l'un des 8 candidats à la présidentielle du 12 avril prochain. Au micro de Christophe Boisbouvier pour RFI et de Marc Perelman pour France 24, il explique notamment sa candidature alors qu'il avait promis de rendre le pouvoir aux civils dès son arrivée à la tête du pays. « Je ne veux pas être porté par un parti ou par un clan, mais par le peuple gabonais », dit-il. Vous l'entendrez. juste après ce journal ou en version encore plus longue sur notre site internet rfi.fr. Ils dénoncent une énième discrimination. Ces leaders d'opposition centrafricains du BRDC, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution. Ils ont vu l'une de leurs marches prévue le 4 avril interdite par les autorités. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les rassemblements organisés en faveur du pouvoir, eux, ne sont jamais proscrits. Je vous propose d'écouter l'un des leaders du mouvement, Crépin Boligumba. Il dénonce une décision injuste.
Il y a une marche qui est prévue le 30 mars en soutien à la candidature du président de la République. Alors dites-moi, au nom de quoi et dans quelle République les Centrafricains peuvent se lever, improviser des marches sans autorisation et d'autres n'auraient pas le droit. Nous ne pouvons pas accepter cette discrimination. Il y a d'un côté ceux qui n'ont pas besoin d'autorisation pour manifester et ils le font au nom du pouvoir tous les jours que Dieu fait, des marches rémunérées. De l'autre côté, nous, de l'opposition, qui n'avons aucun droit. La République ne peut pas être partiale et sectaire. Et bien entendu, nous allons maintenir notre marche du 4 avril. Nous avons informé le ministère de l'Intérieur de ce qu'il fallait encadrer notre marche. Nous sommes dans le cadre constitutionnel, dans le cadre légal de nos activités politiques. Donc nous maintenons notre marche du 4 avril. Et en tout état de cause, l'interdiction concerne une marche du 4 avril 2024. Nous sommes en 2025, donc nous ne nous sentons pas concernés par cette interdiction.
Crépin Boligumba avec Wely Diallo. Quand les manques d'aménagement et de plans d'urbanisme mènent à la catastrophe. À Antananarive, après de fortes pluies ce week-end, des dizaines de maisons du sud-ouest de la capitale malgache ont été détruites, sinon sous les eaux. D'abord, la rivière Sisaon qui traverse la zone est sortie de son lit avant que ne cède lundi matin une digue. Pour RFI, Pauline Le Troquier s'est rendue dans la commune d'Anpitatafk. Reportage.
De l'eau jusqu'aux hanches, Pierrot s'empresse de traverser les 5 mètres qui séparent sa maison de la terre sèche. Chez cet habitant, encore encerclé par les eaux, les dégâts sont plus impressionnants qu'ailleurs. Les murs s'effritent, les meubles flottent, mais de peur de tout perdre, il refuse de rejoindre les sites d'accueil des sinistrés.
Vous êtes les premières personnes extérieures au quartier que j'aperçois ici. Aucun responsable n'est passé. Alors, quand je vous ai vu, j'ai accouru pour vous parler de ce qu'on vit. Moi, j'ai très peur que ma maison finisse par s'écrouler. Mais j'ai décidé de rester ici pour éviter un cambriolage.
Comme Pierrot, dimanche en pleine nuit, des centaines d'habitants ont été tirés de leur sommeil par la montée rapide des eaux. Cette zone insalubre est exposée chaque année aux inondations. Mais cette fois, la maison de Farana n'y a pas résisté et s'est écroulée. Ce n'est pas une raison pour cet habitant de quitter les lieux.
Mais où est-ce que vous voulez qu'on aille? On n'a nulle part où aller. Et ici, c'est notre terre. Nous demandons simplement au président d'aménager cette zone pour nous protéger. On vit la même scène tous les ans. On a juste besoin d'aide.
Dans la capitale où le nombre d'habitants ne cesse d'augmenter chaque année, l'absence d'un plan d'urbanisme adapté favorise l'installation massive des plus démunis dans ces zones à risque, faute de place. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
J'ajoute qu'un dernier bilan du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes fait état de plus de 11 000 sinistrés. Au Congo-Brazzaville, à présent, le président Denis Sassou Nguesso a supervisé ce mardi des opérations de récolte dans l'une des plus grandes régions agricoles du pays, la Bouenza, c'est dans le sud. Et pour l'occasion, les autorités ont investi dans des tracteurs et des moissonneuses. Loïcia Martial a suivi ce déplacement.
Mardi, peu avant midi, l'opération de récolte de maïs avec une moissonneuse batteuse a attiré les habitants des alentours de cette zone agricole protégée. Responsable de près de 60 hectares, Bienvenue Roger Mabika a reçu son nouveau matériel il y a quelques mois et depuis, il est un homme heureux.
Par hectare, nous pouvons faire au moins 3 tonnes. Et si nous prenons 3 tonnes par hectare, ça veut tout simplement dire que nous devons donc nous retrouver avec près de 180 tonnes. Mais ce maïs devra servir pour tous ceux qui en ont besoin, tels que les brasseries, tels que les fermes.
Selon le gouvernement, le Congo-Brazzaville connaît un sérieux problème pour nourrir son bétail, la production étant insuffisante, faute d'importations massives. Le président Denis Sassou Nguesso a remercié les paysans pour leur présence et leurs actions.
Merci pour la façon dont vous avez accepté le mot d'ordre du président lancé lors de la campagne électorale de 2021. Il faut qu'au Congo, l'agriculture aille de l'avant.
Pour le président, chaque région du Congo devrait avoir sa propre zone de production agricole afin de lutter efficacement contre la sous-alimentation et le chômage. Loïcia Martial, de retour de la Bouenza, RFI.
Un bombardement au Soudan, début de semaine dans le nord du Darfour. Plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés dans la ville de Tora. C'est le marché qui a été visé. Et plusieurs organisations de la société civile pointent du doigt l'armée soudanaise du général Al-Burhan pour cette frappe. Au Soudan du Sud, l'opposition dénonce des frappes sur une des bases militaires situées près de la capitale, Djouba. Riek Machar, le vice-président, évoque une provocation constituant, je cite, une violation de l'accord de paix signé en 2018. Accord très largement fragilisé ces dernières semaines après un regain de tension avec l'armée régulière fidèle au président Salva Kiir. Un procès pénal fixé au 23 juin prochain par un juge fédéral du Texas aux États-Unis dans l'affaire des crashs de deux Boeing en 2018 et 2019 qui ont fait 346 morts au total. Le 10 mars 2019, c'est un appareil de la compagnie Ethiopian Airlines qui s'était écrasé à peine 6 minutes après son décollage de l'aéroport d'Addis Abeba. Et puis le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a mis à la retraite le chef de l'armée, Anselem Namo Saniatwe, et l'a nommé ministre des Sports et de la Culture. Cette décision intervient alors que les tensions politiques s'intensifient dans le pays. Ancien commandant de la garde présidentielle, Anselem Namo Saniatwe, avait été sanctionné par les États-Unis en 2019 pour la répression post-électorale de 2018. Et puis la fin de ce journal au Niger. Avec un bel élan de solidarité, l'histoire de Yasmina a ému au pays. Yasmina, cette jeune orpheline atteinte d'une maladie rare et incurable qui a besoin de se rendre à l'étranger, en Turquie, pour recevoir des soins. En début de mois, une cagnotte en ligne a été lancée pour financer le projet et grâce à de très nombreux clics, l'objectif a été largement atteint. Le récit de Magali Lagrange.
En robe fleurie, Yasmina affiche un sourire sur un visage juvénile sur la photo qui accompagne la cagnotte lancée sur les réseaux sociaux. La jeune étudiante est atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare qui provoque raideur musculaire et spasmes douloureux. Diagnostiquée en septembre dernier à Tunis, la maladie est incurable, mais des traitements peuvent en soulager les symptômes. Des traitements que la jeune orpheline, décrite comme une élève brillante, n'a pas les moyens de payer puisqu'ils nécessitent de se rendre à l'étranger. Elle et plusieurs jeunes Nigériens décident alors de prendre les choses en main. Au début du mois, une cagnotte en ligne est lancée pour financer son évacuation en Turquie. L'appel est relayé sur les réseaux sociaux. Opérateurs économiques, fondations, anonymes mettent la main à la poche pour lui venir en aide. L'objectif de départ, 40 millions de francs CFA, est déjà largement dépassé. L'équivalent de 100 000 euros ont été récoltés. « Je ne saurais assez remercier », confie Yasmina sur une chaîne locale. Hier, les dons continuaient d'arriver. La cagnotte reste ouverte pour financer la suite des traitements.
Magali Lagrange, et je vous rends la main, André Admelard.
Merci, Nemo Ampis. À tout à l'heure, RFI.